RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, le Tony Parker Show, ce soir est en direct de Sacramento puisque les Spurs jouent face aux Kings et Tony sort tout juste de l'entraînement. Salut Tipeee.
Ça va, vous allez bien?
Salut, salut Jacques.
Salut Tony, salut Pierrot.
Tu peux nous planter le décor là? Tu t'as juste fait la petite séance du matin, c'est ça?
Là, on fait la petite séance du shooting là, et là, je suis dans le bus avec toute l'équipe. On rentre à l'hôtel quoi. Donc, c'est en live.
Mais on a de la chance, Sacramento, c'est pas bien grand, ils vont y être vite.
Remarque, des émissions dans le bus, on a déjà fait des mythiques. Hein, donc,
bien sûr, hein, je me rappelle d'une émission, on avait fait le bus, bref, c'est toute l'émission dans le bus et on avait parlé à toute l'équipe là, c'est sympa.
Là, t'es assis à côté de qui par exemple?
Là, en face de moi, il y a Tim et à ma droite, il y a la Marcus à ma droite.
Tu fais pas le voyage avec Boris?
Je peux vous passer un petit peu Boris, je passerai Boris tout à l'heure.
Voilà, parfait. En direct, c'est ça le Tipeee Show. C'est la NBA vue de l'intérieur. Alors, au programme ce soir, on va parler donc de la proie avec Monaco, qui a une sacrée équipe, hein, en tout cas qui se débrouille très bien pour un promu. Cyril Akpomeda sera avec nous. Et puis l'actu olympique, Tony Estanguet, le chef de file de la candidature de Paris 2024. Et puis, on sera également avec notre décathlonien Kevin Mayer. Il y a une grosse actu en athlé en ce moment. Kevin a des choses à nous dire sur ce scandale qui touche la Russie, mais pas que la Russie. C'est parti pour le Tipeee Show. On est ensemble jusqu'à 22h.
RMC, le Tony Parker Show. Tony Parker. Tipeee Inside.
Allez, on va démarrer par l'actualité des Spurs, l'actualité de Tony Parker. Ça se passe bien ce début de saison, hein, puisque les Spurs sont troisième à l'Ouest avec un bilan positif de 4 victoires et 2 défaites. La semaine dernière, c'était victoire à New York et victoire contre les Hornets. Défaite à Washington mercredi, 102-99, quasiment au buzzer. Mais parlons d'abord de Charlotte, le Charlotte de Nico Batum qui a un peu du mal à démarrer, Tony, hein.
Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre de voir leur début de saison, quoi, parce qu'ils avaient très bien abordé, on va dire, la pré-saison, les matchs amicaux, ils étaient à 7 victoires et une défaite, je crois. Donc c'est vrai que tu aurais pu penser qu'ils commenceraient mieux la saison, et ils sont dans le dur, là, ils ont du mal. Et donc nous, on en a profité, hein, on a fait un très très bon match contre eux, sérieux, on a gagné de 20 points, donc c'était une bonne victoire pour nous.
Comment t'as senti Nico? Est-ce que t'as eu le temps de discuter avec lui, peut-être de dîner, de passer du temps?
Ouais, bien sûr, bah, j'ai dîné avec Nico, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre de le voir avec le maillot d'Hornet. Je pense qu'il est en train de trouver un peu ses marques. Je pense que pour toute l'équipe, hein, c'est un peu bizarre, ça va prendre un peu de temps avant qu'il trouve un petit rythme de croisière. Mais j'ai l'impression que pour lui, voilà, il a plus de responsabilités offensives, mais ça va prendre un peu de temps.
Jacques, comment tu trouves le début de saison de Nico?
Comme je Nico, c'est un peu son côté couteau suisse qui fait que il se disperse, il n'est pas que concentré sur le stock scoring, et ce qui est très bien, c'est déjà, sur ce que j'ai vu, c'est celui qui alimentait le Jefferson. En début, Tony, je trouvais qu'il donnait pas assez la balle à Big Al, et c'est vrai que Big Al, quand il a la balle, il l'utilise pas mal, et récemment, il commence à rejouer très correctement, et Tony a raison, c'est drôle de le voir avec ce maillot, d'autant qu'il a changé de numéro. Il a pris son numéro fétiche, le 5, comme en équipe de France, il a laissé le 88. Voilà, donc c'est un changement. Puis changement de conférence aussi.
Le Tipeee Show en direct du bus des Spurs, hein, puisque les Spurs reviennent de la séance de shooting du matin, et ce soir il y a match contre Sacramento. La semaine donc c'était c'était cette défaite contre Washington, alors avec une fin de match assez incroyable puisque vous perdez sur un shoot quasi au buzzer de Bradley Beal. Mais ce qui est remarquable aussi, en tout cas ce qu'on a noté, c'est que sur les dernières possessions où les Spurs doivent revenir, c'est à toi qu'on donne le ballon dans le Money Time, hein, Tipeee.
Ah non, c'est vrai que c'était un match chaud. On sortait de deux bons matchs là contre Boston et New York. C'est toujours dur de gagner à l'extérieur, on sait très bien en NBA. Et c'était notre troisième match en 4 jours. Et on avait le match en main, on était à plus 4, plus 5 dans les trois dernières minutes. Et Washington, ils ont pris feu, ils ont mis des tirs très très importants. Ils sont revenus sur nous. Et donc, je mets d'abord un premier tir ligne de fond à 2 points pour revenir à égalité. Et après, ils mettent un panier à 3 points. J'en mets un et un autre gros shoot pour moi, je pensais être la prolongation. Et Bradley Beal, il met un 3 points qui nous tue à la fin. Donc, c'était le genre de match, voilà, trois matchs en quatre jours, on a eu une opportunité de gagner ce match-là, mais c'est eux qui ont eu le dernier mot.
Alors, comment tu te retrouves avec ce ballon à shooter à trois points? C'est un système qui est pour toi ou c'est les faits de jeu qui font que c'est toi qui te retrouves à avoir ce dernier shoot?
Non, le système à la base, il était pour Danny Green. Et donc, comme il n'a pas été ouvert, après, moi, j'étais entre guillemets, on va dire, la deuxième option. Et donc, j'étais prêt. Hein. J'ai vu quand Danny, il était bloqué, j'ai essayé de me libérer et mis un gros panier à trois francs pour revenir à égalité.
En tout cas, mettre ce genre de shoot, ça doit déjà être jouissif et puis faire du bien aussi, non? Tu dois te sentir bien quand tu as ce ballon décisif et que ça rentre.
Non, mais moi, je me sens bien, de toute façon, depuis le début de la saison. Hein. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, c'est un nouveau rôle pour moi. Mais je me sens très très bien. L'équipe a gagné, on joue bien en basket et c'est ça le plus important, c'est de mettre la Marcus et Kawhi en confiance. Et pour l'instant, Kawhi fait un très très gros début de saison. La Marcus, ça va venir, hein, il est encore en train de s'adapter à nous et de trouver, on va dire, son rythme. Mais une fois que lui va trouver son rythme, je pense qu'on trouvera un bon rythme de croisière et enchaîner les victoires. C'est important qu'on laisse pas trop de matchs comme ça bêtes, comme celui de Washington, parce qu'on sait très bien qu'à la fin de l'année, surtout dans la conférence Ouest, il faut gagner le plus de matchs possible parce que c'est important quand même d'avoir l'avantage du terrain. On l'a vu l'année dernière où on était deuxième et en une défaite contre New Orleans, on s'est retrouvé à la sixième place. Donc on ne veut pas faire les mêmes erreurs.
À un poil près, Tony, pour y être invaincu, parce qu'à OKC comme à Washington, vous aviez le match en main et ça glisse entre vos doigts à la fin. Mais moi, ce que je trouve, c'est que on en avait parlé. Tu nous avais dit, on fait beaucoup plus de post-up, on joue beaucoup plus le jeu de position, qui est pas la nature du Spurs basketball. Et je trouve que depuis 2-3 matchs, vous rejouez comme les Spurs, quoi.
C'est marrant, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent ça. Je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on utilise cette nouvelle force qu'on a avec Aldridge à l'intérieur, mais après, il ne faut pas qu'on oublie aussi notre identité qui était de bouger la balle et des pick and roll et tout le monde touche la balle, tout le monde a une opportunité en fait de scorer ou de faire une action décisive. Donc je pense que ça va prendre du temps, et même Kawhi, il poste plus que d'habitude. Et donc, comme je viens de le dire, il va falloir trouver un juste milieu. Mais bon, je ne m'inquiète pas trop pour nous.
Ça peut être une force. Ça peut être une force de varier le basket comme
exactement,
ça.
Exactement. Et en plus, je pense que ça va dépendre des match-up. Selon qui défend sur Kawhi, qui défend sur la Marcus, on peut prendre un
ils vont t'envoyer ça, poster. Ils vont t'envoyer
ça va dépendre des équipes. Ouais.
Et dis-moi, vous avez mis en route, pardon Pierrot, mais vous avez mis en route Boban Marjanovic. J'ai vu qu'il avait mis son premier panier là.
Il est pas mal. Hein.
Qu'est-ce que ça donne? On va rappeler.
Il est quand même 2m25 quand même. 2m25. Il est énorme. C'est le pivot qui jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Et qui mesurait 2m22 à Belgrade, il passe à 2m25 en NBA parce que il a les chaussures pour la mesure.
C'est normal, c'est les chaussures, exactement.
Et dis-moi.
C'est très intéressant, il est intéressant, donc il va falloir qu'il s'adapte au jeu NBA, bien sûr, parce que ça va beaucoup plus vite qu'en Euroleague. Mais je pense que, cette année, ça sera plus une année d'adaptation et l'année prochaine, on pourra, encore plus compter sur lui, mais pour cette année, il va apprendre. Et pour l'instant, c'est de bonne augure.
Et comment vous faites pour le ranger dans le bus, là? Il prend deux places.
Il prend quatre places, ouais. Il est très très grand. Ouais.
Je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que Tony est dans le bus avec les Spurs, hein, puisque c'est jour de match. Donc, il y avait shooting ce matin. C'est à Sacramento. Et là, vous retournez à l'hôtel, c'est ça?
Et donc là, on va à l'hôtel, ouais.
Vous
c'est
en êtes
la routine, quoi. Tous les matins, on fait toujours un petit shooting de 30 à 45 minutes. On fait les systèmes des autres équipes. On voit un peu la stratégie, ce qu'on veut faire sur le soir. Et puis après, on rentre, petite sieste, et puis après, on enchaîne le match. Hein.
Vous en êtes où, là? Vous êtes loin de l'hôtel, encore?
Non, ça sera bientôt arrivé dans 5 minutes.
Bon. Ouais. Tu nous passes Boris tout à l'heure, hein, n'oublie pas. Hein.
Il doit être au fond du bus, lui, tel que je le connais.
Tous les deux au fond du bus.
Il y a un match dont on n'a pas parlé, c'est le match contre New York que vous gagnez, donc 94-84. Les Knicks de Jacques Monclar, qui est pas si mal d'ailleurs cette année, cette équipe.
Ouais,
hein.
Pour rassurer Jacques, ils sont beaucoup mieux que l'année dernière à New York. J'ai l'impression qu'ils jouent un peu mieux ensemble. Le rookie, il m'a l'air d'être un vrai bon rookie. Le Letton, à mon avis, il va être très très bon.
Kristaps Porzingis.
C'est ça. Et après, ils ont pris des bons joueurs, hein, comme Robin Lopez. Bon, Afalo, il a pas encore joué, mais quand Afalo, il va revenir, ça va beaucoup aider. Ils ont battu les Lakers hier. Donc moi, je pense que New York, ils ont une chance de se battre pour les playoffs cette année.
Tiens, bah justement, on va accueillir un supporter des Knicks.
Anthony, il leur manque un meneur. Ils sont trop dépendants de Calderon, mais il leur manque juste un bon meneur et il pourrait faire les playoffs.
Jérémy nous appelle au 32-16 dans le Tipeee Show sur RMC. Jérémy, bonjour.
Ouais, salut Pierrot. Salut Jacques, salut Tony.
Jérémy. Salut. Ouais,
c'est Limoges ou c'est les Knicks ton équipe? Parce que ça n'existe pas un mec qui a deux équipes comme ça là.
Ah ben, j'ai deux équipes dans deux pays quoi, on va dire ça surtout. Limoges c'est forcément, c'est ma ville, c'est différent, mais je suis allé à New York donc j'ai appris à aimer les Knicks on va dire, et c'est un peu de la peine de... Bah, qu'ils aient... Enfin cette année encore ça va. On va dire, je m'attendais à pire comparé à l'année dernière où c'était vraiment été catastrophique. Mais je comprends pas comment une ville comme New York, alors que le hockey cartonne, ils ont fait finale l'année dernière. Le baseball, les Mets, pareil, ils font finale aussi. Et le basket, j'ai deux titres dans les années 70, mais c'est tout, quoi. Ça fait un peu la catastrophe.
Pour défendre un peu New York et le basket, c'est pas si facile que ça de changer une équipe. Hein. C'est très compliqué avec toutes les règles de trade, des transferts, que ce soit les mêmes salaires. C'est pas comme en Europe, hein, pour expliquer un peu à nos auditeurs, quoi. C'est beaucoup plus difficile de changer une équipe.
Est-ce que c'est pas Carmelo qui sacralise un peu trop l'équipe peut-être, ou on n'en joue que peut-être que pour lui depuis des années maintenant? Est-ce que c'est pas au final lui le même si c'est le scoreur de l'équipe le problème aussi quoi?
Non mais Carmelo c'est un bon joueur, mais après on sait très bien qu'en NBA il faut de l'aide, hein, il faut plusieurs joueurs, il faut une équipe. Tu peux plus gagner avec un ou deux joueurs quoi. C'est la NBA, j'ai l'impression que ça progresse d'année en année. Il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. Et Carmelo, il ne peut pas faire...
Merci Jérémy. Et puis, ils n'ont pas eu trop de chance non plus sur leur transfert. Parce que quand ils avaient pris Stoudemire, il me semble que ça avait été un fiasco, notamment parce qu'ils jouaient peu à cause des blessures, non Jacques?
Il est arrivé à un mauvais moment. Et puis surtout, ils ont déshabillé leur équipe quand ils ont pris Carmelo Anthony. Parce que au-delà du fait qu'on pourrait débattre, Tony a dit que c'est un bon joueur, voire un très bon joueur, mais c'est à mon sens, pas un franchise player. Tu peux construire autour de Tim Duncan, c'est plus dur de construire autour de Carmelo Anthony, mais quand ils ont tradé Carmelo Anthony, ils ont perdu Gallinari de mémoire, Billups, Winston Chandler et Timofey Mozgov. Là, ils se sont déshabillés complètement, et ça a planté le coach d'Anthony, ça a planté un peu la franchise, quoi, voilà.
Le Tipeee Show continue et on continue donc de faire le chemin avec les Spurs jusqu'à leur hôtel. Tony, tu nous tiens au courant. S'il y a des petites coupures de temps en temps, c'est normal. Hein, on est en ligne, en direct avec les États-Unis. C'est la radio en direct, c'est comme ça. Dans un instant, on va parler des Jeux Olympiques Paris 2024, la candidature en tout cas. On sera avec Tony Estanguet. Mais d'abord, on va aller sur la Ligue 2, le direct. C'est Nancy-Dijon, un match qu'on suit avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut messieurs, c'est bientôt la mi-temps ici. Marcel Picot, 2-0 pour la SNL, but de Julien Seto à la 24e sur un très beau contre, et ensuite c'est Buzyn qui a doublé la mise à la 39e, une erreur de Julien qui contrôle mal un centre, qui dégage mal un centre venu de la droite, et Buzyn au deuxième poteau double la mise. Donc très bonne opération pour l'instant, on approche la mi-temps, très bonne opération pour la SNL qui mène donc 2-0 face à Dijon.
À tout à l'heure Arnaud, 2-0 pour Nancy face à Dijon. Le Tipeee Show continue, les Jeux 2024, Tony Estanguet et Kevin Mayer vont nous rejoindre, et puis on parlera du basket à Monaco avec Cyril Akpomeda. Toute l'actu de la NBA au programme également. Vous êtes les bienvenus au 32-16 et sur Twitter, le hashtag, vous le connaissez, c'est RMC Live. À tout de suite.
RMC, 21h, 22h. 6 seconds to go. Tony Parker Show. Tony Parker with a Pierre Dorian et Tony Parker.
Allez, c'est reparti pour le Tony Parker Show avec Jacques Monclar jusqu'à 22h. Aujourd'hui, on va suivre le cheminement des Spurs jour de match, puisqu'on est parti à peu près de la salle où se terminait la séance du matin. Et puis on va arriver tranquillement à l'hôtel. Tony nous raconte tout ça en direct. T'en es où, Tipeee?
Ça va, toujours sur la route.
Ah, mais en plus, on a récupéré un son nickel, donc c'est parfait. T'as pas Boris dans le coin, non? Tout le monde est encore sur son siège, c'est ça? Vous n'êtes pas encore tout à fait à l'hôtel?
C'est ça. Bon. Ah, Boris, il est au téléphone, de toute façon.
Mais c'est dingue. Normalement, au téléphone, il y passe 5 minutes, ensuite il dit 3 fois OK et c'est terminé.
C'est pas faux.
Bon.
Sale chaude, hein, Sacramento, Tony. Sale chaude, hein, l'Arco Arena. pas elle s'appelle maintenant. En fait, Sleep Train, je sais plus quoi là.
Ouais, c'est ça, ouais, Sleep Train Arena. Mais avant, c'était super chaud. Ouais, quand il y avait Vlade Divac, Mike Bibby, Stojakovic, Chris Weber, quand c'était la grosse équipe. Là, maintenant, je trouve que c'est un peu moins chaud quand même.
D'accord.
Allez, on va parler des Jeux Olympiques. Mais d'abord, le direct avec la Ligue 2, c'est la mi-temps entre Nancy et Dijon, Arnaud Valadon.
Et c'est Nancy qui mène 2-0. C'est tout. Buzyn, il y a même une balle de 3-0 par Dallet qui a manqué. Il a buté sur le gardien assez bêtement. Mais véritable démonstration des Nancéens ce soir face à Dijon dans ce choc entre le deuxième et le troisième.
Allez, c'est parti. La candidature pour les Jeux de 2024, c'est maintenant.
RMC France Olympique.
Et on est avec le patron, le coprésident de la candidature, Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et membre du CIO. Salut Tony.
Salut, bonjour à tous, ça roule.
Salut Tony.
Salut Tony, ça va, tu vas bien?
Ouais, et toi?
Bah ça va, hein, c'est à toi qu'il faut demander.
Pour un tour, hein.
Exactement, le marathon là, c'est reparti. Bon, toi tu tiens le coup avec ta nouvelle vie de ministre, ça va?
Ouais, écoute, ça bosse, ouais, ça bosse pas mal. On est parti pour un super projet, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Écoute, ça se passe plutôt pas mal. On a bien avancé là maintenant sur le dossier technique. On sait maintenant où sera le village des athlètes.
C'est ça, vous avez fait l'annonce, ça sera Saint-Denis Pleyel, c'est ça?
C'est ça, ouais. À côté du Stade de France et du centre aquatique, donc vraiment super bien situé, dans un cadre qui est assez magique au bord de la Seine. Donc les athlètes, je pense, seront super bien hébergés. Et puis du coup, voilà, je pense qu'on a un concept global qui est vraiment vraiment top. Techniquement, je pense qu'on a encore un dossier meilleur que lors de la candidature de Paris 2012. Donc voilà, on essaie d'améliorer tout ça et de travailler avec les athlètes, parce que ben vous nous avez aidés les gars, donc on essaie de continuer là-dessus, à être sur un dossier qui vraiment est orienté vers les athlètes, quoi.
Et justement, on parle des prochaines étapes. C'est quoi la plus importante de la candidature? La prochaine étape, c'est quoi l'avenir là?
Bah, écoute, une candidature, c'est principalement un vote. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher petit à petit des 100 personnes qui vont voter dans 2 ans pour choisir la ville qui organisera les Jeux de 2024. Pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape, nous, on considère que il faut d'abord partir du dossier de candidature. Donc là, on travaille vraiment là-dessus en ce moment jusqu'à la fin de l'année pour, entre guillemets, se débarrasser un peu de ce côté-là. Ensuite, la deuxième étape pour nous, ça va être vraiment d'aller au contact des Français pour faire en sorte que ce dossier, ben, il soit bien compris et porté par toute la France. Parce que si on veut organiser les Jeux en 2024, c'est d'abord parce qu'on pense que la France en a besoin et que ça va vraiment impacter toute la population, le sport en général. Je pense que pour notre projet de société, je pense qu'il faut qu'on renforce la place du sport et les Jeux peuvent être un bon catalyseur pour ça. Et puis après, la troisième étape sera à l'international. Et clairement, une fois qu'on aura le soutien des athlètes français, le soutien de la population française, je crois qu'on ce sera le moment d'aller à la rencontre de l'international. Mais l'idée, c'est de pas brûler les étapes non plus, de partir sur des bases solides. C'est hors de question de s'aventurer un peu sur le coup de l'émotion à partir en lobbying international. L'idée, c'est quand même de vraiment partir avec des arguments très forts. Et là, on est sur ces étapes-là.
Tony Estanguet, donc, dans le Tipeee Show, alors que Tipeee, je vous le rappelle, est en direct du bus des Spurs, hein. C'est pour ça que vous entendez le moteur du bus, hein. C'est pas Tony qui est sur sa moto. C'est le moteur du bus des Spurs. Vas-y, Tipeee, je te laisse avec Tony.
Non, mais je voulais savoir, Tony, je sais que t'es pas au courant, mais t'as la carrière de Teddy Riner entre les mains, et Teddy était l'invité hier de la nouvelle émission Direct La Porte, qui a lieu tous les dimanches de 18h à 20h. Donc, écoute ce que Teddy a déclaré.
Ouais, j'aurai 35 ans. Alors moi, ma fin de carrière, ça sera 2020-2021. Mais si on a Paris 2024, ce que je souhaite pour toute la France et pour tous les jeunes qui ont envie de vivre cet événement et tous les sportifs qui ont envie de vivre à Paris, voilà.
Ah oui. Tu prends le jury, là, Teddy. Si jamais on est 2024,
fabuleux, ça. On peut pas dire non à Paris 2024, c'est pas possible.
Mais
non, tu vas Paris. Je m'en ramasse une, je serai content de finir.
Mais tu vas Paris avec le cas, quand même, sur le Tatami, quand même.
Le cas.
T'entends ça, Tony?
Ah, mais c'est bon, ça, c'est bon, ça. Moi, je vais sortir. Je vais me pointer partout avec lui et il va leur faire peur un peu, là, au retour.
Non, mais ouais, déjà, tu sais gars, comment amadouer ceux qui voteront, qui sont des judokas, hein. Ça, ouais, c'est ouais, l'argument ouais. de masse, déjà.
Non, mais moi, je crois vraiment à cette stratégie. Je pense que depuis le début, franchement, vous nous avez aidé, toi, Tony, qui nous a bien aidé aussi au moment de l'annonce de la candidature. Quand on t'a resollicité en septembre, t'étais là. Enfin, voilà, vous jouez le jeu et pour moi c'est super important. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans cette aventure parce que je pense qu'on peut gagner si on a des athlètes français. Et pour l'instant, c'est vrai que bah, que ce soit dans tous les sports olympiques, on a vraiment le soutien des athlètes français. Et donc ça c'est cool. On a une tête d'affiche. On a quand même une génération assez extraordinaire. Et on fait aussi pour ça. Donc voilà, moi je tiens à remercier les athlètes français parce qu'ils nous ont bien aidés. Là, on a bossé avec eux sur le choix du village olympique. On les a associés sur les critères qu'il fallait prioriser pour faire le bon choix. Donc à chaque fois, les athlètes répondent présents alors qu'ils sont en saison, alors que voilà, ils sont pas forcément super dispo. Mais je sens que c'est un dossier qui les passionne. Donc ça, c'est important à moi de préserver cet équilibre-là et faire en sorte que les politiques et tout. Toutes les autres parties prenantes d'une candidature comprennent bien cette importance-là. Mais pour le moment, je peux vous dire que c'est le cas.
Et ce soir, en exclusivité sur RMC, Tipeee va nous annoncer qu'en 2024, il sort de sa retraite pour faire une dernière saison à 42 ans. Tu prends une licence à Rouen ou à Bruges, où tu veux, et puis tu fais une petite saison
non,
de plus.
Non, moi, je serai avec Tony dans la délégation, tranquille.
On organisera les jeux, hein, tous les deux.
Tony Estanguet en direct dans le Tony Parker Show. Tony, qui, je vous le rappelle, est le patron tout simplement de la candidature. Merci Tony, puis tu reviens très bientôt sur AMC dans le Tipeee Show.
Merci à vous, c'est super sympa. Et puis régale-toi bien, Tony. Hein.
Très bientôt.
Bon match, à bientôt. Ciao.
Merci.
Le Tipeee Show continue. On va parler basket et pro avec Cyril Akpomeda, l'ailier fort de l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est aussi un club de basket et ça marche pas mal. Hein. Ils sont 6e en pro. Et puis Kevin Mayer, l'un de nos chouchous, sur RMC, puisque lui aussi, on le suit dans toute sa préparation olympique. Il revient de blessure, il est chaud bouillant pour cette saison et il a plein de choses à dire, notamment sur le scandale qui touche l'athlète. Bien sûr, on va parler de dopage. C'est tout de suite sur RMC et c'est avec Tony Parker en direct du bus des Spurs. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar jusqu'à 22h et avec vous bien sûr 3216 et Twitter hashtag RMC Live. D'ailleurs, il y a tes fans qui te réclament que tu nous passes Greg Popovich au téléphone sur Twitter. Je vous rappelle que Tony est dans le bus des Spurs hein, à Sacramento, direction l'hôtel pour la petite sieste.
On arrive à l'hôtel là, on est à l'hôtel.
Ça y est, vous êtes descendu du bus là ? T'es dans le hall de l'hôtel en train de parler en direct à la radio. C'est quand même fabuleux, c'est magique la radio. Hein.
Il fait déjà la sieste, Boris, ou il passe manger avant?
Bon, non, il va manger d'abord.
Donc si ça coupe, c'est que tu rentres dans l'ascenseur de l'hôtel, je suppose. Hein. Alors, on va vivre tout ça en direct.
Non, justement, écoute. Je vais rester dans le hall.
Ah, très bien. Voilà le professionnalisme incarné par Tony Parker. C'est l'heure du basket, on va parler Pro et Monaco tout de suite.
RMC, Tony Parker, le débrief basket.
Et ton invité Cyril Akpomeda, l'ailier de Monaco, sort lui aussi de l'entraînement. Salut Cyril.
Bonjour à tout le monde.
Salut Cyril, c'est Jacques.
On s'entraîne à 22h, enfin à 21h à Monaco.
Ah, on s'entraîne assez tard. Il aime bien s'entraîner aux horaires de match, donc on s'entraîne assez tard.
Bon Cyril, 36 ans, toujours fidèle au poste, ça commence pas à tirer là quand même?
Ben, curieusement, ça va toujours. Curieusement, ben, je pensais qu'avec le temps, ça se dégraderait, mais ça va. Après, savoir comment ça va évoluer avec la suite, on verra.
Ah, c'est ce que tu dis. En plus, tu joues 28 minutes par match, donc tu te sens bien physiquement.
Ben, je les joue plus maintenant. Je les ai joués jusqu'à l'année dernière. Mais maintenant, on a un effectif de 12-13 joueurs, donc le temps est très très réparti. Et puis, ça dépend un peu des performances des joueurs sur les matchs, quoi.
Et donc ça se passe comment? Alors vous partagez le temps de jeu, ça se passe bien dans l'équipe, il y a un bon esprit?
Ben c'est un petit peu l'esprit des pays de l'Est, il y a des gros rosters et ils essayent de faire tourner un peu comme ils font dans les championnats ou les Coupes d'Europe. ils aiment bien avoir beaucoup de joueurs et puis que ça joue dur. Ils sont pas vraiment sur les stats. Des fois, ils font rentrer des joueurs pour faire des fautes, pour sortir. Enfin, c'est vraiment dans cet esprit-là, quoi.
Ouais, bah, qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce projet? Parce que quand on pense à Monaco, voilà, c'est un bel endroit pour la retraite, mais ça a envie de devenir une grosse place de basket maintenant.
Oui, bah, c'est ce que les gens pensaient, mais moi en fait je suis venu l'année dernière parce que je partais de Gravelines et puis le coach c'était Savo Vucevic et j'ai rencontré par hasard à Monaco puisque moi j'ai de la famille qui est dans le coin, donc je viens souvent voir ma sœur qui est ici. Et on a discuté et puis il m'a dit qu'ils avaient vraiment un gros projet. Et c'est vrai que j'ai un petit peu hésité au début et puis après j'ai réalisé qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un dernier challenge, parce que comme tu as dit, maintenant j'ai 36 ans, donc je n'en aurais pas des milliers, enfin du moins dans le basket. Donc je m'étais dit ça pourrait être une bonne chose d'aller dans un club, de le faire monter et puis de voir après quoi.
Ça a été le club de Eric Bugnot.
Il est vraiment bien, alors c'est ça.
Ouais, non, mais attends, rapidement, Tony, le basket avait arrêté à Monaco en 91 suite à une ou deux saisons douloureuses. En fait, il y avait un coach ricain qui a tenu beaucoup de choses là-bas, qui s'appelait Bill Swick. Moi, ce que j'aimerais savoir auprès de Cyril, est-ce qu'on leur tient un discours clair sur les objectifs à atteindre? Parce que avec ce qu'ils montrent depuis le début de saison, ils peuvent taper.
Son sixième pour un promu.
Ouais, mais Antibes aussi. Hein, les deux premiers azuréens vont bien. Et est-ce que vous avez un objectif établi par le staff?
Ben, pour l'instant, l'objectif clairement, c'est d'essayer d'accrocher les playoffs si possible. Après, comme c'est une équipe qui a été totalement renouvelée, on sait qu'il faut du temps pour la construire et pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc on sait que ça va être sur la durée et on sait que le championnat de France c'est difficile. C'est vrai que là on a bien commencé la saison, mais on sait que commencer en France c'est assez long et des fois ça peut devenir compliqué. Donc il faut essayer de faire des séries et puis de gagner les matchs quand on peut, mais c'est vrai que de bien commencer ça aide.
Cyril Akpomeda, donc l'ailier fort de l'AS Monaco, qui est en direct dans le Tipeee Show, et Tony qui est donc dans le hall de son hôtel à Sacramento. C'est pour ça que vous entendez la petite musique d'ambiance fort sympathique. Et d'ailleurs, tu as entendu discuter, enfin être interpellé par quelqu'un.
Pas ma petite musique, là,
si, c'est
pas
très
mal.
Bien, c'est parfait. Ça correspond bien à l'heure, c'est détente, tu vois, c'est tranquille. Et il y a quelqu'un qui t'a parlé là. Il y a une nana qui t'a parlé là.
Ouais, elle me demandait si tout allait bien. Hein. Ah. Je crois qu'elle me prend pour un petit clochard dans le hall.
Je dis mais c'est quoi ce gars qui est pendu à son téléphone depuis un quart d'heure?
C'est ça. Qui doit être en survêt
ou en short,
ou en short. Peut-être en claquette.
Bon, Tony, en tout cas Monaco c'est moi, c'est
et
pas
Cyril, il y a un petit engouement à Monaco là, ou c'est comme le foot, il y a pas trop de personnes en tribune?
Non, bah il y en avait pas beaucoup au début. Il y en a eu, ça a commencé à venir un petit peu sur la fin de saison de Pro B quand on avait vu qu'on allait monter. Et là là plus les matchs vont et comme on commence à gagner, bah ça commence à se remplir et c'est très bien parce que après c'est vrai que de gagner les matchs ça aide.
Ouais, il est venu, ouais.
Oui, il vient.
Il venait assez souvent. C'est pas mal ça.
Ouais, on est vraiment suivi et les gens commencent vraiment à s'intéresser, donc c'est sympa. Bon, après c'est pas encore la folie, mais je veux dire franchement, c'est beaucoup mieux que les gens ne le pensent.
Cyril Akpomeda, merci beaucoup Cyril d'être venu dans le Tipeee Show. C'est vrai que c'est un peu la curiosité de ce début de saison de Pro A, hein, le Monaco. Le
moi je suis ravi au sens du basket français qu'on ait récupéré Monaco. Bon, bien sûr, je suis content aussi qu'Antibes soit remonté, bien évidemment, mais Monaco c'est important pour le basket français de les avoir. Ils sont en foot, en basket, c'était une plaie de plus les avoir depuis 25 ans. Et clairement c'est une bonne chose, Tony, de les avoir dans l'environnement.
Merci encore à Cyril Akpomeda.
Je trouve ça génial, hein. Je trouve ça génial pour le basket, hein. C'est génial.
Et dans un instant, on va parler une nouvelle fois des sports olympiques avec l'un de nos chouchous, donc Kevin Mayer. Mais d'abord, détour par la Ligue 2, c'est Nancy-Dijon. Un match au sommet, hein, puisque c'est un match qui oppose tout simplement le troisième au deuxième du classement. Ça en est où en deuxième mi-temps, Arnaud Valadon?
C'est reparti depuis deux minutes, mais un match de bien classé, mais match à sens unique, hein. Ce sont vraiment les Nancyens qui ont dominé tout du moins cette première mi-temps avec les buts de Setou et Buzyn. On va voir si Dijon va réagir. En tout cas, ça a dû parler, notamment Olivier Dallaglio, pour recadrer les siens, auteur d'une première mi-temps catastrophique, on va dire. 2-0 donc pour Nancy face à Dijon, déjà à 3 minutes de jouer en deuxième période.
À tout à l'heure, Kevin Maillard, le décathlonien qui fait partie des paris olympiques de RMC, Clarisse Agbenienou, Yannick Agnel également. On suit de très près leur préparation olympique et tout leur cheminement jusqu'aux Jeux de Rio, et régulièrement ils viennent tout simplement nous donner de leurs nouvelles à l'antenne dans les différents shows d'RMC. Et donc ce soir on est avec Kevin Maillard, vice-champion d'Europe 2014. Salut Kevin.
Salut.
Salut Kevin.
Salut Kevin, salut. C'est Tony, hein. Bienvenue dans la maison, ça fait plaisir d'accueillir des nouveaux sportifs en cette année olympique.
Ouais, ben un plaisir de vous parler, un plaisir de te parler à toi.
Bon, 2015, ça a été une année compliquée pour toi puisque tu avais dû déclarer forfait pour les mondiaux à Pékin cet été. Première chose, bah, comment ça va physiquement? C'est de l'histoire ancienne, ta blessure?
Ouais, ça a été très compliqué. Je me suis blessé au mauvais moment, mais je me suis reposé comme il faut, j'ai fait ce qu'il fallait et là j'ai repris l'entraînement de plus belle et je suis en train de construire maintenant pour le projet olympique.
C'était les ischios, hein?
C'est ça, l'ischio gauche.
Et donc t'es prêt là à attaquer, t'as les crocs là alors à l'entraînement là, t'es prêt à faire une grosse saison là?
Ouais, c'est la première fois que je rate un championnat, donc j'avoue que d'avoir regardé devant la télé le championnat sans y participer, ça m'a donné quelques envies, encore plus envie d'y être, et j'avoue que j'y pense à chaque fois à l'entraînement, j'ai qu'une envie, c'est d'être sur le stade.
Et j'avais vu que tes vacances étaient en Inde, c'est ça qui t'a permis de te remettre sur pied?
Ouais, j'en ai profité, ouais. J'ai ma copine qui travaille là-bas, donc je suis allé la voir, j'en ai profité pour me ressourcer, pour visiter un peu New Delhi et ses environs, c'était bien sympa. Maintenant, je suis reparti au boulot, j'ai fait un stage à Saint-Malo avec l'équipe de France, et là, je repars pour m'entraîner à Montpellier.
Ouais, c'est clair que ça doit relativiser quand tu reviens d'Inde, ça doit faire bizarre après dans le quotidien.
Ah, c'est sûr, c'est pas la même vie là-bas, donc on voit la vie autrement quand on va là-bas. Donc maintenant, je suis fixé sur un seul but et j'y vais à fond.
Kevin Maillard, donc notre vice-champion d'Europe de décathlon. Kevin, donc qui est prêt pour une nouvelle saison olympique. Mais d'ailleurs, dans ta blessure là aux ischios, t'as vraiment fait le choix de privilégier la saison 2016 parce que.
Attends, je vais me permettre, Pierrot, parce que je l'avais eu, moi, Kevin, je sais pas s'il s'en souvient, dans l'intégrale.
Exact.
Cet été. Il a bataillé. Il a tout fait pour y aller, le pauvre, et quand il a renoncé, mais il était détruit, quoi. Il a tout fait. Et tout le monde lui disait, ça va pas passer. Il a essayé jusqu'au dernier moment, il a pas pu. Voilà. Donc, il a pas privilégié quoi que ce soit. Il s'est tiré sur la couenne, mon pauvre ami.
Disons que j'avais l'impression que s'il n'y avait pas eu les Jeux derrière, t'aurais presque tenté le pari d'aller au championnat du monde, non?
Avec une déchirure, c'est difficile, hein, parce que ça peut repéter à n'importe quel moment quand ça n'a pas cicatrisé. Donc, forcément, je suis allé jusqu'au bout pour y arriver, mais c'est mes coachs qui m'ont arrêté parce que moi, je voulais y aller.
Richard nous appelle au 32-16 pour parler décathlon avec Kevin Maillard. Salut Richard.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Richard.
T'es avec Tipeee, avec Jacques et Kevin Maillard. On t'écoute. Ouais.
Mais il y a que du beau monde là. moi j'ai une double question pour Kevin. La première, c'est est-ce que tu penses que pour le décathlon, les 9000 points sont à ta portée bientôt ou dans un futur proche?
Alors, juste avant que tu répondes, faut que tu nous dises, Kevin, ce que ça représente 9000 points en décathlon, parce que pour les non-initiés, ça veut pas dire grand-chose.
Tout simplement, c'est à 40 points du record du monde.
Voilà, bon, très bien.
Donc
ça,
voilà,
c'est clair.
On fixe la chose. Après, oui, comme tout décathlonien, on calcule un peu ce que peut faire. On sait comment on peut progresser un petit peu et calculer en fonction de notre décathlon un peu parfait. Oui, j'ai déjà calculé un décathlon à moi faisable à 9000 points, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le décathlon, un décathlon parfait, ça n'existe pas, il se passe tout le temps quelque chose, il y a toujours une contre-performance ou une chose qu'on n'attend pas dans le décathlon. Donc c'est dans ma carrière, je l'envisage bien sûr, sinon je continuerais pas le décathlon. Enfin, pour moi, être parmi les meilleurs décathloniens mondiaux et faire 9000 points, c'est un objectif. Mais pour l'instant, c'est déjà aller chercher des places dans les championnats. On y repensera dans quelques années, je pense.
Alors, tu voulais poser une double question, Richard. C'était quoi la deuxième partie?
La deuxième partie, c'est... Alors, qu'est-ce qui te sépare d'Ashton, par exemple? Enfin, qu'est-ce qui fait que lui, il y arrive et pas toi, par exemple?
Alors, Ashton Eaton, moi, je le compare souvent à une personne pas commune dans le décathlon, parce que c'est que pour moi, c'est la personne la plus forte du monde. C'est-à-dire, il est rapide et il a une coordination exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a commencé le décathlon bien plus tard que moi, alors qu'il est plus vieux. Avant, il faisait du taekwondo. Et en quelques années, il a acquis une technique et une finesse au niveau du décathlon qui est exceptionnelle. Donc c'est tout simplement un surdoué, bien plus surdoué que tous ses congénères dans le décathlon.
Voilà, réponse simple et précise. Merci Richard pour ton appel. On voit que tu es passionné et connaisseur surtout de décathlon.
L'athlée, ouais.
Alors il y a une autre actualité qui concerne l'athlée, Kevin. Donc l'Agence mondiale antidopage a ce soir tout simplement annoncé les conclusions de sa commission d'enquête. Et c'est accablant hein, pour l'athlétisme, notamment en Russie, mais pas que en Russie. Comment tu as vécu ça, toi, en tant qu'athlète en activité?
Bah, c'est accablant pour certains, mais pour d'autres, c'est un peu une victoire. Je me mets parmi ceux qui disent que c'est plutôt une victoire, parce que honnêtement, les Russes, on savait très bien qu'ils étaient dans le dopage depuis longtemps. Tout le monde le disait, personne levait le petit doigt. Bah, enfin, on a sorti l'information et je pense que ça va faire beaucoup de bien à l'athlétisme et laisser beaucoup de chance à ceux qui sont clean.
Alors en rappelant quand même deux trois choses qui ont été annoncées par l'Agence mondiale antidopage, elle considère donc que la fédération russe n'est plus en accord avec les règlements antidopage et demande donc son exclusion, ce qui veut dire que si l'I2F, la fédération internationale, suit, et ce qui semble être le cas, il n'y aurait, on reste au conditionnel, pas d'athlète russe en athlée aux Jeux à Rio, ce qui serait quand même une info énorme. Puis il y a d'autres révélations, mais c'est le principal sur le point de vue sportif.
L'AMA, Pierrot, Kevin, elle dit que ça ne se circonscrit pas qu'à la Russie. Hein.
Non.
Et donc, ça risque de taper partout, et en France certainement, comme ailleurs. Hein. Il risque d'avoir des dommages collatéraux. Ouais.
Exactement, mais après, on sait qu'en France, enfin, par rapport aux autres systèmes européens, et je dirais mondial aussi, on est vachement plus évolué dans le contrôle antidopage. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de surprises dans les pays de l'Est, la Russie, je pense aussi à un autre pays que je ne vais pas citer, mais
un grand pays, j'imagine.
Voilà. Oui, voilà. Donc forcément, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises en France, même si je ne dis pas que la France est totalement clean dans cette histoire. Après, moi j'imagine que la Russie est quand même bien au centre du débat.
Merci Kevin, en tout cas Kevin Mayer, donc qui fait partie des paris olympiques d'RMC avec Clarisse Agbenienou notamment et Yannick Agnel. Merci Kevin, on te retrouve très régulièrement pour que tu nous donnes des nouvelles, mais on est content de t'avoir eu ce soir parce que tu as l'air en pleine forme pour cette saison olympique et on compte sur toi à Rio. Hein.
Ouais, bah écoute, je vais m'entraîner pour ça. J'espère tout péter, sans blessure.
Merci Kevin. Tony qui est toujours donc dans le hall de l'hôtel à Sacramento. Tu as peut-être juste le temps de monter dans ta chambre là. On a 2-3 minutes, pas plus. Et puis on te retrouve pour toute l'actu NBA. En attendant, Tony, on va aller voir Arnaud Valadon pour Nancy-Dijon en Ligue 2. C'en est où Arnaud?
Ouais, 56 minutes de jeu dans cette partie. Et Dijon a réduit l'écart. Un but extrêmement chanceux. En fait, Thiam récupère le ballon au 25 mètres Plenac. Il frappe, sauf que sa tentative initiale atterrit sur la tête de Muratori qui avait glissé. Ça prend un contre-pied Ndiassembe. Un but totalement gag, on va dire. Mais ça remet Dijon dans le coup, qui avait besoin d'un peu de chance dans cette partie, tant les Nancéens dominent. Il y avait même une barre transversale nancéenne juste avant cette réduction de l'écart. Donc bref, tout est relancé, on va dire, à Marcel Picot. 2-1 entre Nancy et Dijon, et encore 34 minutes à jouer.
Allez, à tout de suite, l'actu NBA arrive dans le Tipeee Show. Vous pouvez vous poser vos questions en direct à Tony Parker au 32-16 ou sur Twitter. Le hashtag c'est RMC Live.
RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Tony Parker et Tony Parker
avec Jacques Monclar, et bien sûr n'oublie pas la Ligue 2, c'est toujours 2-1 pour Nancy face à Dijon. On y retournera tout à l'heure parce qu'il nous reste peu de temps pour évoquer l'actu de la NBA. Tony qui est donc à Sacramento, il y a match ce soir. C'est un début de saison quand même assez incroyable au niveau des performances. Tipeee, on se faisait la réflexion avec Ludo qui prépare l'émission, c'est qu'il y a quand même des stats individuelles hallucinantes, à commencer par Stephen Curry qui tout simplement simplement est le meilleur marqueur à ce stade de la saison depuis Jordan en 90, c'est-à-dire 34 points de moyenne. Il est sur des standards à la Jordan, quoi.
Non, c'est fort ce qu'il fait, hein. Franchement, ce début de saison, et il shoot en plus avec une adresse incroyable. Donc c'est vrai que pour l'instant, Golden State, il joue à un très très haut niveau.
Avec un 47% de réussite à 3 points, ça Jacques, pour les spécialistes, ça veut dire quelque chose, hein.
Ouais, c'est absolument énorme ce qu'il fait. Tony l'a dit, dans son jeu à haut risque, il est pas inhumain, parce que hier il a fait 2 sur 10. Ça m'a rassuré.
Il baisse sa moyenne, du coup.
Oui, non, mais ça m'a rassuré, parce que quand même, je me suis dit, mettre un robot à sa place, c'était quand même insolent, quoi. Mais oui. Et puis on attend les confrontations de haut niveau qui vont arriver. Mais au-delà de Stephen Curry, c'est tous les Warriors qui jouent un vrai basket en ce moment.
Et puis alors, juste derrière lui, il y a Kevin Durant à 30 points, James Harden à 29.7, bref.
Il en a mis 46 en gagnant aux Clippers. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça, Tony, de cette victoire de Houston, ouais, aux Clips?
Bah, c'était une grosse victoire pour Houston, parce qu'ils étaient pas très bien, et je pense qu'ils se sont rassurés avec cette victoire, parce que c'était un gros match pour eux, et un James Harden retrouvé avec une bonne adresse sur ce match-là. Donc de toute façon, on sait très bien que Houston, hein, ils vont être très très dangereux, hein. Ça va être une équipe à battre, de toute façon, que ce soit ou Golden State, hein, c'est les deux équipes qui sont, on va dire, qui étaient devant l'année dernière. Mais Golden State, on voit aussi qu'ils jouent avec une grosse rage, hein, par rapport à toutes les critiques qu'il y a eu en début de saison, comme quoi ils ont gagné un titre NBA, mais ils n'ont pas joué contre nous, ils n'ont pas joué contre OKC ou les Clippers. Donc ça va être une grosse bataille pendant toute l'année.
Alors James Harden et André Drummond, qui ont été nommés il y a quelques minutes là, joueurs de la semaine par la NBA. Ce Drummond, on peut en dire un mot aussi, c'est plus de 20 rebonds de moyenne. C'est monstrueux, ça, Tony, aussi, non?
Drummond.
On ne fait pas semblant de savoir parler anglais.
Non. Même en France, on aurait dit Drummond.
Je rappelle qu'on dit Kevin Durant ici. Hein.
Appelle-le Dédé Drummond, ça sera parfait.
Bon, parlons plutôt de sa moyenne de rebond.
Dédé, il est bon au rebond. C'est un bon rebondeur, Dédé.
Et 20 points, 20 rebonds de moyenne. C'est du Chamberlain ou Abdul-Jabbar, quoi.
Ah, c'est pas mal, hein. Non, c'est vrai que c'est bien. Détroit, ça fait plusieurs années que Détroit, ils ont des bons jeunes, et tu te demandais, voilà, c'est quand qu'ils vont passer à l'étape où ils vont gagner des matchs régulièrement. Et donc là, on a l'impression que c'est cette année, hein. Ils ont très très bien commencé la saison. Ils ont aussi Jennings qui va bientôt revenir. Donc, non, ils ont une équipe assez complète, hein.
Tiens, il y a des questions qui arrivent pour toi sur Twitter, et notamment Petit Prince du Parc, qui te demande comment tu trouves l'accueil de Kobe dans les salle de NBA cette année, et il parle notamment de hier soir au Garden où il a été ovationné. Ça ressemble à une tournée d'adieu, entre guillemets, ou...
Bah, c'est ce que, ouais, les gens ils disent dans les journaux. Après, je sais pas si Kobe veut vraiment prendre sa retraite. Après, c'est quand même 20 saisons en NBA, donc on verra bien.
Et puis les tweets de Julien, qui a tweeté: Tony, t'es mon joueur préféré. Est-ce que tu penses pouvoir gagner la prochaine Coupe du monde de basket avec l'équipe de France? Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est au programme, mais
la prochaine Coupe du monde, bah, j'y serai pas avec l'équipe de France, parce que moi j'ai déjà annoncé que ma dernière compète avec l'équipe de France, ça sera les JO de Rio, si on se qualifie.
Alors, autre question, c'est au 32-16, nous avons Théo, qui est un supporter des Celtics. Salut Théo.
Oui, bonsoir.
Tiens, en direct bonsoir dans le Tipeee Show.
Et Pierrot, ça c'est la force de bosser avec Moscato, et ben c'est Drummond, je sais maintenant.
Mais c'est Drummond et Durant, voilà. Ok.
Il y avait Drujon, mais maintenant il y a Drummond.
On t'écoute, Théo.
Moi je voulais revenir sur Paul George, parce qu'on parle pas de Paul George.
Indiana.
Paul George, il sort exactement des Pacers, et il a eu quand même une saison blanche, et il revient, c'est 23 points de moyenne, c'est 10 rebonds, 5 passes, donc c'est plutôt pas mal pour un joueur qui s'est fracassé la jambe. Donc je voulais poser une question à Tony, c'est voilà, il a eu 8 mois de coupure. Qu'est-ce qu'un joueur NBA pour revenir à un tel niveau, comme c'est pas mal après moins de 10 matchs de NBA, ben voilà, quel peut être le programme, en fait, d'un joueur comme ça pour revenir à un tel niveau?
Bah, je sais pas c'est quoi c'était son programme, mais c'est vrai que c'est super difficile de revenir à un haut niveau après la grosse blessure qu'il a eue. Donc moi je suis vraiment content pour lui parce que c'est un super joueur, il est très très sympa. Et donc je souhaite que du bonheur pour ce joueur. Et Indiana, ils font un bon début de saison. Lui, on a l'impression qu'il est revenu à son meilleur niveau, donc on verra bien ce qu'ils vont faire. En plus, il y a Yann Maimi là-bas, c'est comme mon petit frère, il est pivot titulaire, il joue très très bien aussi, donc j'espère qu'il prend les playoffs.
Merci Théo pour ton appel et ta question sur Paul George d'Indiana.
Bon courage pour Tony.
On va enchaîner avec Clément. Salut Clément.
Messieurs, bonsoir.
On t'écoute,
moi,
Clément.
Bonsoir. Moi, du coup, je voulais parler des surprises, pour moi, des surprises de la saison. Enfin, sur ce début de saison, on a parlé de Détroit avec les stats du gros Dédé, qui est bien content que Greg Monroe soit parti parce que comme ça il a un racket pour lui tout seul. Et du coup, moi, je voulais parler aussi de Minnesota. Je sais que j'étais intervenu un peu plus tôt dans l'année pour faire mes pronostics au niveau de la conférence. J'avais mis Minnesota playoff, et du coup, je le vois toujours, et je me dis que la jeunesse peut faire force dans cette ligue. Ouais.
Minnesota, moi j'ai toujours dit de cette équipe, s'ils sont en bonne santé, ils pourront faire quelque chose. Le problème avec Minnesota sur ces 2-3 dernières années, c'est qu'à chaque fois ils ont eu plein de blessés, que ce soit Rubio, Pekovic, Kevin Martin, ils avaient toujours plein de blessés. Et donc s'ils arrivent à rester en bonne santé, c'est clair qu'ils seront peut-être dans les 8. Hein.
Voilà Clément pour Minnesota. Donc c'est que le début de saison, hein, mais qui est cinquième pour l'instant à l'Ouest. Merci Clément, merci à tous pour vos questions au 32-16 et sur Twitter. Tony, c'est l'heure de la sieste, on va te libérer. Hein.
Il faut qu'il mange avant. Oh.
Merci. Oui. Exactement, je vais manger là.
Sinon, faut que tu passes avant que Boris ait tout raflé au buffet. Dépêche-toi. À la semaine prochaine, Tipeee, 21h, 22h.
À la semaine prochaine, ciao les gars.
Ciao. Et bon match à Sacramento. C'est l'after qui arrive avec Gilbert Bribois. Ça va les gars?
Il est là.
Le derby. Et oui, le derby, Jacques.
C'était bien.
Mais le problème, c'est que est-ce que on en fait pas un peu trop là? Est-ce que tu vois tout le folklore autour de ce derby? Il y a terreau à un dérapage important de ces quatre.
Ouais,
hein.
Mais méfiance. Ça fait longtemps que ça existe. C'est pas neuf.
Mais personne ne fait rien pour arranger le truc. À Lyon, ni à Saint-Etienne.
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que pendant un temps, tu pouvais pas monter en étant 69 à Saint-Etienne, et les Verts pouvaient pas descendre en 42 à Gerland. C'était vraiment. Et depuis un petit moment, ça s'était arrangé, apparemment.
En réalité, Beretta, il s'est fait défoncer sa bagnole hier soir sur le retour à Saint-Etienne.
Mais je comprends pas ça. C'est Georges Beretta. Ils ont su que c'était Georges Beretta ou.
Georges Beretta est dans une voiture immatriculée 42 avec un logo du club dessus. Alors, tu vas me dire. C'est peut-être pas très malin d'aller à Lyon avec une voiture et un logo.
En France, tu peux te balader partout où tu veux avec un logo.
À l'intérieur, il y avait les gars qui s'occupent du musée des Verts.
Ouais.
Et ils se sont retrouvés dans un bouchon. Et là, il y avait les supporters lyonnais. Ça a cassé le pare-brise.
Ça, c'est nul. Ça, c'est archi nul.
Il n'y a pas que ça de nul hier. Hein. On va y revenir dans l'after. On va également parler de l'équipe de France, évidemment. C'est une semaine spéciale Euro 2016 qui démarre sur RMC. Et puis les drôles de l'âme, comme tous les lundis, jusqu'à Nice.
Et le Tipeee Show revient la semaine prochaine, 21h, 22h. Salut Jacques.
Ciao, ciao.
Et bonne semaine.